Les chroniques bioéthiques du professeur Rosmini. Une exploration cinématographique de questions contemporaines qui nous concernent tous.
Vous, moi, nous.
Pour aujourd'hui et demain. Notez bien.
Les chroniques bioéthiques du professeur Rosmini.
Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et...
Cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir.
Ça, c'est quoi?
C'est des pétards.
Mon bébé.
Elisabeth a pris quelle chambre? La chambre du haut.
Elisabeth, ma petite sœur, lève-toi. Il est 4 heures.
Déjà.
Elle est où ta femme?
Ta mère.
Il ne veut jamais m'appeler sa mère.
Non.
C'est moi qui ai un cancer.
Ça, je le sais.
Je ne veux plus voir mon frère. Et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais.
J'ai pas été une très bonne mère. Hein.
Non.
J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés.
Mais que vous êtes bizarre dans ta famille.
Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia.
Moi, vous m'aimez bien. Pourquoi?
Vous me prenez celui que je n'aime pas.
Bon, maintenant que ça fait 5 ans, dis-moi ce qui s'est passé. Pour qu'Elisabeth te déteste à ce point.
J'ai jamais compris, rien vu venir.
Tu peux duper le reste de la famille, pas moi.
Elisabeth, tu as un vrai problème relationnel.
Que même
avec...
Ferme ta gueule, je suis là.
Oui, je sais, mais toi tu comptes pas. Et jamais...
Je vous avais prévenu, c'était pas sain. Ces choses-là ne s'apaisent jamais.
Être rejeté à ce point par sa mère depuis l'enfance, c'est contre nature. Henri est terriblement prévisible, comme le mal.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai enfin fait mes analyses et il se trouve que je suis compatible. Tu vois, chère mère, il n'y a que moi sur qui tu puisses vraiment compter.
Tu ne m'aimes toujours pas, hein?
Je ne t'ai jamais aimé.
Moi non plus.
Chères auditrices et chers auditeurs, dans une chronique consacrée à 21 grammes, le film d'Iñárritu, j'évoquais des problèmes éthiques liés au transfert d'organes post-mortem. Dans cette chronique, je voudrais évoquer quelques problèmes éthiques relatifs au don d'organes entre vivants à partir du film d'Arnaud Desplechin qui s'appelle Un conte de Noël qui a été réalisé en 2007. Alors déjà, le don entre vivants, le don intrafamilial, le don entre proches, on pourrait se demander si le terme de don convient bien. Je voudrais montrer dans cette chronique comment le fait qu'un individu dans une famille ait besoin d'un don d'organes, ou en l'occurrence de moelle osseuse dans le film, en fait conduit toute la famille à se reconfigurer. Comment cet événement n'est pas seulement un événement médical, un événement technique de transfert d'un organe du corps de l'un dans le corps de l'autre, mais est un événement social, un fait social total qui conduit toute la famille à modifier en fait la perception qu'elle a d'elle-même. Le film de Desplechin raconte donc l'histoire d'une femme qui s'appelle Junon, qui est interprétée par Catherine Deneuve, qui vit dans une famille très bourgeoise, très cultivée, j'y reviendrai, qui est atteinte d'un lymphome particulièrement grave et qui a besoin d'un don de moelle osseuse. Donc vous savez qu'en France, la loi réduit le don entre vivants à des personnes très proches, notamment des personnes de la même famille. Ça a été étendu aux amis proches il y a quelques années. Donc autant le don post-mortem, on pense qu'il est éthique s'il est anonyme, et le don entre vivants, au contraire, on pense qu'il n'est éthique que s'il est réalisé entre proches. Et notamment, une des raisons, c'est bien sûr pour éviter le marché, pour éviter le commerce des organes. Donc, puisque Junon est malade, il va falloir faire deux choses. D'abord, il va falloir tester tous les membres de la famille pour savoir ceux qui sont compatibles ou pas. Première étape. Et deuxièmement, une fois qu'on aura trouvé ceux qui sont compatibles génétiquement, s'il y en a, eh bien, il faudra s'assurer leur consentement. Alors, comme le titre du film l'évoque, Un conte de Noël, le film refuse le réalisme globalement. Hein. Le film insiste souvent, enfin Desplechin insiste souvent dans son film, sur des procédés énonciatifs très visibles, très explicites. Il y a des ouvertures et des fermetures à l'iris, il y a beaucoup d'intertitres, il y a même recours au cinéma d'animation par moment. Les regards caméra, et puis le jeu des acteurs eux-mêmes, qui est très distancié, qui est parfois même assez caricatural par moments, qui fait que tout ça fait que ça désactive largement les affects en fait, et les émotions qui pourraient être relatifs à une situation aussi dramatique. Et d'une certaine façon, ça apparente par moments le film à une sorte d'expérience de pensée. Cette expérience de pensée, quand j'ai vu le film, elle m'a rappelé ce qu'écrit le docteur Véronique Fournier dans son très bon livre qui s'appelle « Le bazar bioéthique » qui a été publié en 2010. dans lequel Véronique Fournier, à partir de cas concrets de personnes ayant eu besoin justement de greffe d'organes, explique qu'en fait, la loi qui a autorisé à donner, qui a ouvert le droit de donner un organe à un de ses proches, en fait, concrètement, crée quasiment une obligation de donner à cause des pressions sociales. C'est une idée qu'on retrouve dans un autre livre que je vous recommande également, qui a été écrit par Valérie Gatteau, qui s'appelle « Pour une philosophie du don d'organes », livre de 2009. Dans ce livre, Valérie Gatteau, à partir d'études de cas, hein, c'est essentiellement centré sur des études de cas, Valérie Gatteau, elle conteste en fait le terme même de don. Elle dit en fait, voilà, il n'y a pas de don, parce qu'en fait, personne ne refuse. Quelqu'un qui refuserait de donner son rein ou un lobe de son foie à son frère pour qu'il survive, ben, il serait jugé par la famille, par la société. Donc c'est quasiment impossible en fait de refuser. Deuxièmement, pour les mêmes raisons, la notion de consentement libre et éclairé, qui est inscrite dans la loi, logiquement, un individu ne peut donner son organe que s'il donne son consentement libre et éclairé, mais là aussi c'est très contestable, parce que libre, on l'est sans l'être vraiment, et éclairé, on ne l'est jamais totalement. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le livre de Valérie Gatteau, mais aussi dans le livre de Véronique Fournier d'ailleurs, c'est qu'ils sont explorés la complexité des relations affectives et familiales, etc., qui sont mises en jeu dans ces histoires de transfert d'organes intrafamiliales. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, tout ça oblige à relire l'ensemble de l'histoire familiale et à réinterroger la place de chacun. Alors, pour revenir au film de Desplechin, en fait, il n'y a que deux personnes qui sont compatibles génétiquement avec Junon. Il y a Paul, c'est son petit-fils, il a 17 ans, il est mineur, donc déjà ça pose un problème légal de consentement. Il est mineur et puis il est atteint de troubles psychologiques. Et puis, il y a Henri. Alors, Henri, c'est le fils de Junon, un de ses enfants, qui est interprété par Mathieu Amalric. Alors, lui, il a une place doublement problématique dans l'histoire de la famille. D'abord, quand il est né, il avait été à la place conçue pour sauver, entre guillemets, son frère aîné. Puisque son frère aîné était atteint d'un cancer et donc ses parents avaient dit on va essayer de faire un autre enfant pour voir si avec les cellules de du placenta ou du cordon ombilical, on ne peut pas sauver le premier. Et puis, ça n'avait pas marché, donc l'enfant était mort, son frère est mort. Et puis, par ailleurs, Henri, à cause d'un comportement un peu ingérable, un peu insupportable, a été carrément banni de la famille à la demande de sa sœur. Suite à certains événements, donc il a été banni. Et là, bien évidemment, le fait qu'il soit génétiquement compatible avec Junon le remet au centre de la famille, le remet complètement au cœur de la famille. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que, et là aussi ça peut faire réfléchir sur la notion de don d'organes, c'est que Henri n'hésite pas à négocier le fait d'accepter de donner sa moelle osseuse pour sa mère, de négocier. Il dit « j'accepte de donner ma moelle osseuse à condition, un, que je sois réintégré dans la famille, et deux, que ce soit maintenant ma sœur qui soit bannie ». Donc on voit à quel point ces histoires de dons d'organes peuvent parfois être des histoires magnifiques, de générosité, de culture du lien, mais parfois aussi des histoires finalement assez sordides. Et comme l'écrit Valérie Gatteau dans son livre « Pour une philosophie du don d'organes », elle écrit que justement le succès en fait des greffes, c'est pas simplement un succès médical, c'est pas simplement un succès technique, c'est avant tout un succès affectif, intellectuel, symbolique. C'est finalement ce qui va faire que ça marche ou pas, c'est avant tout la qualité des liens et la qualité de ce qui va se dire, la qualité des récits. La qualité de la manière dont la famille, dont les individus vont réécrire le récit de leur vie. On pourrait ici penser à la notion d'identité narrative, développée notamment par Paul Ricoeur, bien sûr. Et l'identité narrative, ça existe pour les individus, mais ça existe aussi pour les familles. Chaque famille se raconte des histoires sur elle-même. Et lorsque Ricoeur parle de l'identité narrative, à propos de l'individu, il dit que chacun de nous se ressaisit donc comme un sujet, saisi comme une unité à partir des récits qu'il se raconte ou qu'il raconte aux autres sur lui-même. Mais il dit aussi que ces récits ne sont pas stables, ils sont toujours à refaire. Comme il l'écrit, l'identité narrative, elle ne cesse de se faire et de se défaire. Et bien évidemment, un transfert d'organes dans une famille, c'est un moment majeur où cette identité narrative collective va se défaire et peut-être se refaire. Et dans un conte de Noël, donc on se rend compte que les identités, qu'elles soient individuelles ou collectives, soient extrêmement fragiles. Elles sont extrêmement fragiles. Et le film, d'ailleurs, est placé sous la référence explicite à Nietzsche, puisque à un moment, le père, donc le mari de Junon, lit un passage de la généalogie de la morale de Nietzsche, je le cite, qui dit « Nous, chercheurs de la connaissance, nous sommes pour nous-mêmes des inconnus, pour la raison que nous ne nous sommes jamais cherchés ». Fin de citation. Alors ça, c'est assez intéressant aussi, ce passage, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la famille de Junon, c'est une famille bourgeoise et c'est une famille aussi très érudite. C'est une famille à très fort capital culturel. Donc, on y pratique la philosophie, je viens de le dire, puisqu'on lit du Nietzsche, la psychanalyse. On parle de littérature. On a aussi un rapport privilégié aux mathématiques, puisque un des beaux-fils de Junon est carrément médaille Field. Hein. Et il y a une séquence assez intéressante, d'ailleurs, une séquence où toute la famille est réunie et où le beau-fils, donc le mathématicien, sur un grand tableau avec sacré, refait des calculs pour calculer les probabilités de survie de Junon, si elle fait la Grèce, si elle ne le fait pas. Et il y a toute cette idée aussi, je parlais tout à l'heure de mise à distance, il y a toute cette idée aussi dans laquelle le calcul, les mathématiques, les chiffres vont permettre de mettre à distance la réalité elle-même et peut-être mettre à distance ce que la maladie a de terrifiant et ce que la mort a de terrifiant. Et ce qui est assez intéressant aussi dans le film, c'est qu'on se rend compte que malgré tous ces outils intellectuels, malgré les mathématiques, malgré la philosophie, malgré la littérature, etc., eh bien on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. On a l'impression qu'on reste sur un plan du non-sens, qu'on reste sur un plan de l'absurdité quasiment, et que la famille ne parvient pas à se réinventer une nouvelle histoire autour de cet événement. Là aussi, qu'il s'agisse donc de transfert d'organes ou qu'il s'agisse de procréation médicalement assistée, sujet que j'ai abordé dans d'autres chroniques, on se rend compte que les biotechnologies et la médecine d'aujourd'hui apportent des nouvelles solutions, des solutions techniques, à des problèmes techniques, pourrait-on dire. Mais en fait, ces nouvelles solutions, elles posent aussi de nouveaux types de problèmes, des problèmes éthiques, des problèmes philosophiques, des problèmes relationnels. Et on voit que finalement que le transfert d'organes intrafamilial, le transfert d'organes entre vivants, entre proches, eh bien c'est quelque chose qui peut à la fois soit révéler ce qu'il y a de plus sordide dans les relations humaines, mais c'est aussi quelque chose qui peut éventuellement constituer un défi assez stimulant pour l'être humain, puisque ce sont des situations totalement nouvelles, bien évidemment. Cette idée de transfert d'organes, elle est très récente dans l'histoire de l'humanité. Elle n'a été d'ailleurs prévue dans aucun des textes classiques de la tradition, que ce soit la tradition religieuse, philosophique. Il n'y a pas de sourate ou de parole de Jésus sur le don d'organes, hein, il faut le constater. Mais par contre, justement, par leur nouveauté radicale, ces biotechnologies, eh bien, elles nous stimulent dans notre capacité à tenter, en tout cas, à trouver la signification. Voilà, trouver une signification humaine à ces événements, à ces faits, à ces procédés, à ces processus, qui sont des processus purement techniques, donc qui en eux-mêmes n'ont pas de sens humain, et qui sont simplement des savoir-faire. Et voilà, ces savoir-faire nous obligent à nous demander collectivement comment est-ce qu'on peut inventer du sens. Et il me semble que le cinéma fait partie des arts qui permettent justement à l'être humain d'inventer du sens. Et chaque cinéaste peut-être propose une manière de saisir ces sujets, une manière peut-être d'ouvrir des pistes de signification. C'est le cas en tout cas pour ce film d'Arnaud Desplechin. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.
Les chroniques bioéthiques
du professeur Rosmini
à retrouver sur radiogrenouille.com.